Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 23, À l'instar de Robinson. Après Oppenheimer et Morel, qui pourrissaient comme moi dans ces années de ténèbres, j'étais considéré comme le plus dangereux prisonnier de Saint-Quentin. Et plus que encore, j'étais jugé réfractaire aux pires châtiments, réputé tenace et têtu. Plus terribles étaient les tortures employées par mes bourreaux pour me briser, plus j'encaissais sans fléchir. La dynamite ou la mort, tel avait été l'ultimatum du gouverneur Atherton. Ce ne fut finalement ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais produire la dynamite, et le gouverneur était incapable de me tuer. Et cette endurance m'était venue, elle aussi, de mes existences passées. Ce sont elles qui m'ont fait plus dur que l'acier. De l'une de celles-ci, permettez-moi, pour la preuve irréfutable qu'elle comporte, de vous parler brièvement encore, et ce sera tout avant qu'on me pende. Je ne m'en souviens que comme un interminable cauchemar. Je me trouvais sur une petite île rocheuse battue par les lames et si basse sur la mer que, durant les grandes tempêtes, les embruns la recouvraient de leur poussière humide et salée. J'y vivais au milieu de mille souffrances, privé de feu et ne me nourrissant que de viande crue. Je n'avais un peu de joie que quand le soleil brillait. Alors je réchauffais à ses rayons mes membres glacés. Ma seule distraction était un aviron et mon couteau de poche. Avec le couteau, je m'évertuais à marquer sur l'aviron une entaille nouvelle pour chaque semaine qui s'écoulait, et à y tracer des lettres minuscules qui me servaient d'aide-mémoire sur mon île déserte. Lettres et encoches étaient nombreuses. J'aiguisais mon couteau sur une pierre plate, et aucun barbier ne fut jamais plus jaloux que moi de l'entretien de sa lame favorite, d'acier brillant. Ce couteau était pour moi un trésor sans prix. Sur mon aviron, je gravais notamment cette inscription. Ceci est pour faire connaître à la personne dans les mains de qui cet aviron pourra tomber que Daniel Foss, né à Elkton, dans l'état de Maryland, aux États-Unis d'Amérique, s'embarqua au port de Philadelphie en 1809, à bord du brick Negociator, et à destination des îles Amies. Il fut, le mois de février suivant, rejeté sur cette terre désolée où il se construisit une hutte et vécut un certain nombre d'années, se nourrissant de phoques. Il est le seul survivant de l'équipage de ce brick qui rencontra une banquise et coula bas le 25 novembre 1809. De ce naufrage, du craquement du brick contre la banquise en pleine nuit et comment il coula, j'avais conservé le souvenir terrible. Le vent soufflait en tempête, et sous la lune qui par moments émergeait du creux des nuages, les voiles, les cordages et toute la mâture du brick qui sombrait apparaissaient frangées de glaçons. La grande chaloupe, au prix de mille difficultés, avait pu être mise à la mer, et tout l'équipage, sauf quelques hommes qui se noyèrent dans leur précipitation, y embarqua. Il faisait un froid épouvantable, tandis que notre capitaine, Nicholl, tenait la barre. Je n'arrêtais pas de me frotter le nez d'une main ou de l'autre pour l'empêcher de geler. Nous fîmes voile vers le nord-est, mais dans la chaloupe entièrement découverte, la mort ne tarda pas à sévir. L'un d'entre nous fut un beau matin, dans l'aurore grise, trouvé couché, plié en deux, à l'avant du bateau, complètement gelé et déjà raide. Un des mousses, le plus âgé, mourut le second, puis l'autre mousse, au bout de 10 à 12 jours. D'autres hommes suivirent. 5 semaines s'écoulèrent ainsi. Il ne restait plus à bord que le capitaine, le chirurgien du bord et moi-même. Le froid était tel que bière et eau gelèrent à bloc. Il nous fallait les briser pour nous en partager les morceaux que nous sucions ensuite jusqu'à ce qu'ils fondissent. Le 27 février, une terrible tempête de neige se déchaîna. Nos vivres étaient complètement épuisés. Le chirurgien qui avait accepté l'idée de la mort était résigné à tout, et le capitaine était bien près de l'imiter. J'étais au gouvernail, mes deux compagnons gisant comme deux cadavres, lorsque j'aperçus la terre. C'était une petite île de rochers que battaient les flots. Je gouvernais vers elle. À quelques yards de la côte, la chaloupe échappa à mon contrôle. Elle fut retournée en un clin d'œil, et je sentis que l'eau salée m'entrait dans la gorge et me suffoquait. Je ne revis jamais mes deux compagnons. Moi, je pus surnager et m'agripper à un aviron, tandis qu'au même instant, un coup de mer me lançait au loin, par-dessus la ligne des récifs côtiers. Je me relevais tout meurtri, mais sans blessure grave. Seule la tête me tournait par suite de mon extrême faiblesse. Je fus capable cependant de me traîner sur le ventre, un peu plus loin de la côte, et à l'abri des lames qui m'eussent infailliblement remporté. Je me relevais en un instant, sachant que j'étais sauvé et remerciant Dieu. Je n'ignorais pas que la chaloupe avait été certainement brisée en 1000 pièces, et je devinais combien affreusement avaient dû être broyés les corps du capitaine Nicholl et du chirurgien. Puis je chancelai et m'évanouis. Je demeurai toute la nuit à demi-mort, dans une sorte de stupeur de tout mon être, sentant confusément l'humidité et le froid dont j'étais la proie. Le matin, en me montrant le lieu sinistre où j'avais échoué, m'apporta un renouveau d'effroi. Aucune plante, pas un brin d'herbe ne poussait sur ce bout de sol désolé, sur cette excroissance rocheuse de l'océan. Sur un quart de mille en largeur et un demi-mille de long, ce n'était que roc entassé. Je ne pouvais rien découvrir qui fût susceptible de sustenter mon épuisement. Je mourais de soif, il n'y avait pas d'eau douce. En vain, je tentai de boire à chaque cavité rocheuse que je rencontrais. Les embruns de la tempête avaient salé l'eau de pluie qui avait pu s'y amasser, et je ne fis qu'attiser ma soif. Toute la journée, je me traînai sur les mains et sur les genoux saignants, dans la recherche vaine d'une goutte d'eau potable. Quant à la chaloupe, rien n'en subsistait que l'unique aviron auquel je m'étais cramponné et qui était venu à terre avec moi. Le second jour, mon état empira. Moi qui n'avais pas mangé depuis si longtemps, je me pris à enfler démesurément. Mes jambes, mes bras, tout mon corps gonflèrent. Mes doigts s'enfonçaient d'un pouce dans ma peau et les dépressions qu'ils y formaient étaient longues à disparaître. Malgré toutes mes peines, je continuais à lutter, pourtant, décidé à accomplir jusqu'au bout la volonté de Dieu qui était que je vive. Soigneusement, je vidai avec mes mains toute l'eau salée que contenaient les trous des rochers, dans l'espoir que les averses prochaines les rempliraient d'eau douce. Effectivement, je fus réveillé au cours de la nuit par le battement d'une averse. Je rampai de trou en trou, lapant la pluie ou la léchant sur les rochers. Cette eau était saumâtre encore, mais tolérable. Elle me sauva. Je me rendormis, et quand au matin je me réveillai, une sueur abondante me trempait, et j'étais délivré de tout délire. Cette profusion d'eau saumâtre me rendit étonnamment heureux. Lorsque j'eus découvert le cadavre d'un phoque que les lames avaient, comme moi-même, projeté dans l'île par-dessus les brisants de la côte, et qui gisait là depuis plusieurs jours, mon bonheur n'eut plus de bornes. Pas un marchand dont les navires reviennent à bon port, d'un long voyage prospère, dont les magasins s'emplissent jusqu'au toit de denrées précieuses, dont le coffre-fort se bonde d'un afflux de dollars, ne s'estima jamais, j'en suis certain, aussi riche que je me jugeais l'être désormais. Je me jetai à genoux pour remercier Dieu de rechef. Dieu, j'en étais de plus en plus persuadé, avait décidé dès la première heure que je ne devais pas mourir. Je recueillis aussi quelques brassées d'algues marines que je fis sécher au soleil et qui, le soir étendues sur le roc, me servirent de matelas, au grand soulagement de mon pauvre corps meurtri. Pour la première fois depuis de longues semaines, mes vêtements n'étaient plus mouillés, si bien que je m'endormis d'un profond sommeil, fruit à la fois de mon épuisement et de la santé qui revenait. Lorsque cette bonne nuit passée je me réveillai, j'étais un autre homme. Le soleil s'était à nouveau caché, mais je ne m'en affectais pas, et j'appris très vite que Dieu, qui ne m'avait pas oublié pendant mon sommeil, m'avait préparé d'autres et merveilleux bonheurs. Aussi loin que je pouvais porter la vue, les rochers côtiers étaient jonchés de phoques, qui s'y étalaient paresseusement. J'en écarquillai mes yeux, je me les frottai de la main, afin de m'assurer que je n'avais pas la berlue. Ils étaient là des milliers, et d'autres encore, non moins nombreux, folâtrés dans la mer. De leur gorge sortaient des sons rauques dont l'ensemble formait un vacarme prodigieux et étourdissant. Ma première pensée fut que c'était de la viande qui s'offrait à moi, de la viande pour une douzaine d'équipages. Je saisis aussitôt mon aviron, qui était la seule arme que je possédais, et je m'avançai avec prudence vers cette immense probande. Mais je compris bientôt que tous ces êtres marins ignoraient l'homme. Ils ne trahissaient aucune crainte à mon approche, et ce fut pour moi un jeu d'enfant de leur asséner sur la tête des coups redoublés de mon aviron. J'en tuai un, deux, trois, quatre, cinq, et je continuai à frapper et à tuer en proie à une vraie démence. Cet acharnement au meurtre n'avait ni rime ni raison. 2 heures durant, je m'épuisais à ce massacre, jusqu'à ce que je tombasse de fatigue. Les phoques me laissaient faire comme hébétés. Puis soudain, comme à un signal donné, tous les survivants regagnèrent l'eau et s'y précipitèrent pour y disparaître en un clin d'œil. Le nombre de phoques que j'avais assommés dépassait 200. Lorsque je repris mes esprits, je fus scandalisé et effrayé, tout en même temps de la folie de meurtre qui m'avait possédé. J'avais sottement gaspillé ce que Dieu m'avait offert. Et pour utiliser du moins le fruit de mes exploits, je me mis au travail sans tarder. Non sans m'être agenouillé une fois de plus, et sans avoir renouvelé mes remerciements à l'être suprême dont la miséricorde ne se lassait point, je dépouillai les phoques, Puis de mon couteau, je découpai leur viande en longues bandes que je mis à sécher sur la surface des rochers au soleil, heureusement reparu. Je découvris aussitôt, dans les fissures des rocs, de petits dépôts de sel formés par la mer. Je recueillis ce sel et en frottai la viande pour la conserver. Cette besogne me demanda 4 jours entiers, et lorsque j'eus terminé, je songeai avec une légitime fierté que Dieu devait être satisfait de moi. Pas une bribe de la viande qu'il m'avait donnée ne serait perdue. Ce labeur me fit en outre le plus grand bien. Il ramena dans mon corps une saine circulation, et j'eus le plaisir de pouvoir bientôt, sans inconvénient, manger à ma faim. Jamais durant les 8 années que je passai sur cet îlot, le temps ne fut aussi régulièrement clair et ensoleillé que je le trouvai après ce massacre pour faire sécher mes bandes de viande. Et je ne manquis pas d'y voir là une preuve renouvelée de la providence de Dieu. Plusieurs années devaient s'écouler en effet avant que ces animaux effarés ne revinssent visiter mon île. Mais je me gardai bien de dormir sur mes lauriers. Je me bâtis une hutte de pierre et attenant à la hutte un magasin pour recevoir ma viande salée. Je recouvris ma hutte avec la plus grande partie des peaux des phoques et en rendis ainsi la toiture imperméable. Chaque fois que la pluie battait mon toit, je songeais avec admiration que toutes ces peaux qui, si humblement, servaient de protection à un pauvre homme abandonné sur une île déserte, eussent représenté au marché aux fourrures de Londres la rançon d'un roi. Une de mes premières préoccupations fut de m'ingénier à trouver un moyen quelconque qui me permît le calcul du temps, sans quoi je perdrais bientôt la notion non seulement des mois et des années, mais même des jours de la semaine, et ce qui était le plus fâcheux de tout, de celui qui était consacré au Seigneur. Je m'efforçai donc de rappeler à mon esprit, avec le plus de précision possible, le nombre de jours qui s'étaient écoulés depuis le naufrage de la chaloupe, où le capitaine tenait à sa façon registre du temps. Quand je m'y fus bien retrouvé, j'établis à l'aide de 7 pieux, placés près de ma hutte, mon calendrier hebdomadaire. Puis je fis sur mon aviron dorénavant une encoche pour chaque semaine écoulée et une autre pour les mois, en ayant bien soin d'ajouter à mon décompte des 4 semaines les jours supplémentaires. Par ce procédé, je fus en mesure d'observer et sanctifier dignement le saint jour du sabbat. Je composai et gravai sur mon aviron un petit cantique approprié à ma situation et que je ne manquais pas de chanter chaque dimanche. Dieu ne m'avait pas oublié, par un juste retour de bon procédé, je ne l'oubliai jamais, ni le dimanche, ni aux fêtes établies. On ne saurait croire quelle somme de travail est nécessaire à l'homme demeuré seul pour satisfaire aux besoins les plus élémentaires de l'existence. En vérité, je n'eus guère de loisirs au cours de cette première année. La construction de la hutte, qui n'était au total qu'une sorte de caverne, me demanda 6 semaines de labeur. Pendant des mois et des mois, je dus surveiller mes conserves et renouveler les couches de sel, puis aussi gratter et assouplir au prix de peines infinies un certain nombre de peaux de phoque, afin de pouvoir le cas échéant m'en fabriquer des vêtements. La question de l'eau douce me donna également bien des tracas. Les trous des rochers où je la conservais manquaient de profondeur. J'entrepris, en usant par frottement une pierre plus tendre avec une pierre plus dure, de me confectionner une jarre pouvant contenir à vue de nez 1,5 gallons. Ce fut l'œuvre ardue de 5 semaines. Plus tard, par le même procédé, je fabriquai une autre jarre, plus grande, de 4 gallons. J'y trimai durant 9 semaines. J'en fis aussi à temps perdu plusieurs petites. Une très grande que j'avais entreprise et qui devait contenir 8 gallons se fait là après 7 semaines de travail. Au bout de 4 ans écoulés, et comme je m'étais fait à l'idée de passer sur mon île le reste de ma vie, je réussis mon chef-d'œuvre. Ce fut une jarre étroite et longue, très profonde, une capacité de 30 gallons. J'y engloutis 8 mois de labeur et de patience. Mais quand j'eus heureusement terminé ce superbe récipient, qui était vraiment fort élégant, j'en oubliai mon humilité coutumière et fus pris d'un blâmable excès d'orgueil que je me hâtai de réfréner pour ne pas déplaire à Dieu. Ce ne fut par contre qu'un jeu pour moi de fabriquer un petit vase d'1/4 gallon qui me servait à recueillir l'eau dans les trous des rochers et à la transporter jusqu'à mes jarres où je la gardais en réserve. J'ajouterai, afin de renseigner exactement mon lecteur, que ce petit vase pesait dans les 25 à 30 livres, et jugé par là de la fatigue que représentait pour moi son maniement et les allées et venues nécessaires. Ainsi, je rendais ma solitude aussi confortable que possible. Afin de protéger ma hutte contre les grands vents qui, aux équinoxes, redoublaient de fureur, et dans ces moments la pauvre hutte ne pesait pas plus qu'un pétrel dans la mâchoire de l'ouragan, je construisis autour d'elle un mur de pierre de 30 pieds de long et de 12 pieds de haut. Je ne jugeais pas, quand j'eus terminé, avoir perdu ma peine. Mon mur brisé à merveille, la violence du vent, et je demeurai calme dans ma hutte, par-dessus laquelle passaient, ruisselant, les embruns. Les phoques avaient un beau jour reparu. Ils abordaient toujours du même côté de l'île, mais se défiaient maintenant. Je construisis deux autres murs, qui encadraient la passe de rochers par laquelle ils parvenaient sur la terre ferme. De cette façon, je leur coupais facilement la retraite et les assommais sans qu'ils puissent fuir à droite ni à gauche, si bien que j'avais toujours en réserve devant moi pour 6 mois de vivres séchés et salés. Bien que privé du droit de goûter la société d'aucune créature humaine, ni même celle d'un chien ou d'un chat, j'acceptais mon sort avec beaucoup plus de résignation que ne font des milliers d'hommes. Tout d'abord, ma conscience était pure, ce qui est beaucoup. Et souvent, je songeais combien de criminels, traînant dans une cellule de détention le poids d'une infamie, dont le remords, sans aucun doute, les brûlait sans cesse comme un fer rouge, étaient 1000 fois plus malheureux que moi. Je ne doutais pas d'ailleurs que la Providence, qui avait déjà tant fait en ma faveur, m'envoyât un jour quelqu'un pour ma délivrance. Tout ce vrai que j'étais du commerce de mes frères et des commodités coutumières de la vie, je devais bien admettre, à la réflexion, que ma situation comportait de notables avantages. Mon île était petite, mais j'en étais le maître incontesté. Il était bien peu probable que personne, sauf les bêtes de l'océan, m'en contestât jamais la tranquille jouissance. D'autre part, l'île étant inaccessible, mon repos n'était troublé la nuit par aucune crainte, et je n'avais rien à redouter d'une invasion de cannibales ou de bêtes féroces. Mais l'homme est une créature étrange, que quelques désirs nouveaux tourmentent sans cesse. Moi qui si longtemps n'avais demandé à la bonté de Dieu qu'un peu de viande putréfiée pour me rassasier et pour me désaltérer une goutte d'eau saumâtre, je ne fus pas plutôt en possession d'une réserve d'excellente viande salée et d'une provision assurée d'eau douce que je commençais à ronchonner. Je voulais du feu et sentir dans ma bouche la saveur de la viande cuite. De là à souhaiter quelques-unes des excellentes friandises dont je me régalais à la table familiale, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi, et je voyais flotter dans mes rêveries une foule de mets délicieux auxquels je me promettais de faire largement honneur si jamais Dieu me tirait de mon île. C'était alors, j'en suis persuadé, le vieil Adam qui reparaissait en moi, ce père lointain qui se révolta le premier contre les commandements du Seigneur. Une perpétuelle révolte est dans l'homme. Elle tourmente d'inutiles désirs et d'efforts vains son esprit inquiet, son cœur opiniâtre et mauvais. Croiriez-vous que j'en étais par moments à me désespérer de n'avoir plus mon tabac? Cette pensée revenait me torturer jusque dans mon sommeil, et je voyais jusqu'au matin danser devant mes yeux clos des ballots entiers de tabac, des magasins de tabac, des cargaisons de tabac, des plantations entières de tabac. Mais je réfrénais rapidement ces pensées mauvaises et ne tardais pas à reprendre la maîtrise de moi. D'un cœur humble, j'offrais à Dieu toutes les souffrances de ma chair, tous ses désirs inassouvis. Au cours de la 3e année, j'entamai la construction d'une tour, ou si vous préférez d'une pyramide à 4 faces, qui allait en s'élargissant vers la base, en s'effilant vers le sommet. Ce fut un rude travail d'empiler à moi tout seul tous ces blocs, sans l'aide d'aucune corde ou poulie, d'aucun échafaudage. La forme inclinée de mon édifice me permit seul de surmonter cette difficulté. J'atteignis 40 pieds à la pointe extrême de ma pyramide, et si l'on considère que l'île, à son point culminant, comptait la même hauteur au-dessus des flots, on reconnaîtra comme moi que je me trouvais ainsi en avoir doublé l'altitude. Quand je fus arrivé à cet étonnant résultat, j'eus un scrupule, je l'avoue. Le bon chrétien qui était en moi se demanda avec inquiétude si, en modifiant ainsi la structure apparente de cet îlot sur lequel Dieu m'avait recueilli, je n'avais pas offensé Dieu. Il avait fait cette terre toute plate sur l'océan, et maintenant elle se projetait vers le ciel et vers les nuages. Je méditai longtemps sur ce problème troublant et finis par me convaincre que, par le travail de mon dos qui avait porté les pierres, de mes mains qui les avaient ajustées, je n'avais fait, au contraire, que parfaire avec son approbation le plan primitif du Seigneur Tout-Puissant. La 6e année, je surélevai ma pyramide. Au bout de 8 mois de travail, elle était de 50 pieds au-dessus de l'île. Évidemment, ce n'était pas encore la tour de Babel, mais elle répondait au but que je m'étais assigné. En premier lieu, me fournir un poste d'observation, me permettant de scruter bien loin l'océan, afin d'y découvrir un navire qui passerait au large. Ensuite, augmenter pour ce même navire la possibilité de remarquer mon île qu'apercevrait peut-être le regard errant de quelques matelots. j'avais continué en outre à entretenir par ce travail ma bonne santé, physique et morale, et à déjouer les pièges de Satan. Pendant mon sommeil seul, il persistait à me tourmenter par de vaines visions de succulentes nourritures et de cette herbe pernicieuse appelée tabac. Le 18 juin de la sixième année, je perçus au loin un navire. Mais la distance à laquelle il voguait sous le vent était trop grande pour qu'il pût me discerner. Loin d'en éprouver du désappointement, cette apparition fugitive me fut un réconfort. Je ne pouvais plus douter, comme il m'était arrivé de le faire, que les navires des hommes ne laborassent parfois ces parages. Je continuai donc à attendre patiemment les événements. Lassé sans doute, Satan abandonna la partie et cessa presque complètement de me tarabuster par des désirs alléchants mais superflus. J'occupais mes loisirs à graver sur mon aviron le récit des événements les plus notoires qui m'étaient advenus depuis mon départ des paisibles rivages de l'Amérique. Afin de ménager la place dont je disposais sur le bois, je m'appliquais à une écriture la plus menue possible. Ma peine était telle à ce travail que parfois 5 à 6 lettres représentaient la besogne de toute une journée. Peut-être, si je ne revoyais jamais les miens, cet aviron leur parviendrait-il un jour et les mettrait-il au moins au courant de ma déplorable destinée. Aussi, lorsqu'il fut couvert de mon écriture, me devint-il, on le conçoit, plus précieux encore que par le passé. Ne voulant plus l'utiliser à assommer des phoques, je me fabriquai pour le remplacer une massue de pierre qui me rendit les meilleurs services. Afin de préserver mon aviron des intempéries, je lui confectionnai une gaine de peau de phoque. Je ne l'en sortais que pour le hisser, par beau temps, au sommet de ma pyramide, après l'avoir muni en guise de pavillon d'une banderole, toujours en peau de phoque. Au cours de l'hiver qui suivit, j'eus à souffrir d'une tempête particulièrement effroyable. Elle se déchaîna vers 9 heures du soir, annoncée par d'énormes nuages noirs et par un vent frais du sud-ouest, qui vers les 11 heures devint furieux, accompagné de coups de tonnerre incessants et d'éclairs d'une incroyable longueur. Je ne fus pas sans crainte pour ma sûreté. Les flots déchaînés couvrirent entièrement l'île, et si je n'eusse grimpé au sommet de ma pyramide, nul doute que je n'eusse été noyé. Elle seule me sauva. Ma hutte fut entièrement submergée et toute ma provision de viande de phoque emportée et réduite à rien. Là encore, cependant, ma bonne étoile ne m'abandonna pas. La mer, en se retirant, avait semé la surface de l'île d'une multitude de poissons, de l'espèce des mulets ou approchants. Je ne ramassai pas moins de 1219 de ces poissons que je me hâtai d'ouvrir et de saler et de mettre à sécher au soleil, comme on fait de la morue. Ce changement heureux dans mon menu vint fort à point pour me réveiller l'appétit, mais je me rendis coupable de gloutonnerie et mangeai tellement que la nuit suivante, je faillis en trépasser. Au début de ma 7e année de séjour sur l'île, au mois de mars exactement, une seconde tempête, non moins formidable, eut lieu. Lorsqu'elle se fut apaisée, ce fut cette fois le cadavre frais d'une gigantesque baleine que je découvris sur les rochers où les vagues l'avaient projetée. Et vous comprendrez ma joie quand je vous dirai que je trouvai profondément encastré dans les entrailles du monstre un harpon, muni encore de sa corde, d'une longueur de plusieurs brasses. Mon courage et mon espoir en un avenir meilleur en furent de rechef réconfortés. Mais, à la vue de la nourriture exquise que m'offrait cette baleine, je retombai dans le péché de gourmandise et tellement me gavai que je manquai encore en mourir. La chair du gros cétacé me fournit pour une année de vivres et alterna désormais à mes repas avec celle des mulets et des phoques. De sa graisse, j'exprimai dans une de mes jarres une huile exquise et parfumée où je trempai en les mangeant mes tranches de viande ou de poisson. J'aurais pu même me fabriquer une mèche avec la guenille qui me servait de chemise et la trempant dans l'huile, l'allumer en faisant jaillir le feu du heurt d'un silex contre l'acier du harpon. Mais j'estimais que cette lampe eût constitué pour moi un luxe superflu et j'abandonnai aussitôt cette idée. Je n'avais aucun besoin de lumière quand les ténèbres de Dieu descendaient sur moi et je m'étais habitué à dormir hiver comme été, du coucher du soleil à son lever. Moi, Darrell Standing, qui écrit ces lignes dans la prison de Folsom, je me permets de placer ici une réflexion personnelle. Après avoir vécu dans une existence antérieure la rude vie que je viens de raconter et toute cette torture de mon corps, toutes ces privations de mon estomac, comment, oui, aurais-je pu m'émouvoir des tourments que m'infligeait le gouverneur Atherton? Ma vie actuelle était une structure construite, à travers les siècles, par mes vies passées. Que pouvait bien être pour moi gouverneur imbécile, 10 jours et 10 nuits de camisole. Pour moi qui, lorsque j'étais Daniel Foss, avait patiemment croupi 8 ans durant sur un îlot rocheux perdu sur l'océan. La 8e année se terminait. On était en septembre et j'avais élaboré le plan audacieux de surélever ma pyramide à 60 pieds au-dessus du sol. Mais comme je me réveillais un matin, j'aperçus un navire qui tirait des bordées en semblant inspecter le rivage. Il était presque à portée de ma voix. Afin d'être vu, je grimpai sur ma pyramide et agitai en l'air mon aviron et son oriflamme. Puis je courus sur les rochers côtiers, criant et dansant, employant bref tous les moyens pour prouver aux nouveaux arrivants que j'étais bien en vie. Je fus aperçu, et je distinguai le capitaine et son second qui, debout sur le gaillard d'arrière, m'examinaient avec leur longue vue. En réponse à mes signaux, ils donnèrent l'ordre à leurs hommes, qui étaient au nombre d'une douzaine, de manœuvrer sur la pointe ouest de l'île, vers laquelle je me dirigeais en hâte. Comme je devais l'apprendre par la suite, c'était ma pyramide qui avait de loin attiré tout d'abord leur attention et excité leur curiosité. Ils s'étaient avancés afin de se rendre compte de ce que pouvait être sur cette île cet étrange monument qui s'y dressait. Une embarcation fut mise à la mer et tenta d'aborder, mais les brisants rendaient tout accostage impossible. Et après plusieurs tentatives infructueuses, ceux qui la montaient me firent signe qu'ils devaient s'en retourner au navire. Jugé de mon désespoir, je me saisis de mon aviron que j'avais décidé depuis longtemps d'offrir au muséum de Philadelphie si je m'échappais jamais, et en sa compagnie, je piquai une tête dans les vagues écumantes. Ma bonne étoile, mon énergie et mon habileté, et la protection de Dieu, firent que je réussis à gagner l'embarcation. Quant au navire, il avait été, durant ce temps, emporté si loin à la dérive que nous ne pûmes le rallier et monter à bord qu'après avoir ramé pendant une bonne heure. Ma première impulsion fut de me livrer à un de mes anciens et plus chers penchants. Je mendiai sur le champ un morceau de tabac achiqué, de ce tabac dont j'avais été sevré pendant 8 ans. Il fit mieux et me tendit sa pipe, préalablement bourrée à mon intention, d'excellent tabac de Virginie. Je me mis à fumer. Mais au bout des 5 minutes, la tête me tourna et je fus bientôt violemment malade. Rien de surprenant à cela, mon organisme s'était entièrement purifié du fatal poison, lequel opérait en moi comme il fait chez tout jeune homme qui en est à sa première cigarette. Je rendis la pipe et renonçai de ce jour à tout jamais à la plante funeste, bien guéri et remerciant Dieu de ce dernier bienfait qu'il m'avait accordé. Moi, Darren Standing, je dois maintenant compléter le récit de cette existence, revécue par moi dans la camisole de force de la prison de Saint-Quentin, en ajoutant que je me suis souvent demandé, en me réveillant dans ma cellule, si Daniel Foss avait été fidèle à sa résolution de déposer son aviron au muséum de Philadelphie. Il est difficile à un prisonnier surveillé comme je l'étais de communiquer avec le monde extérieur. Pourtant, je confiai un jour à un gardien une lettre que j'avais écrite à ce sujet au conservateur du muséum de Philadelphie. La lettre ne parvint pas à destination en dépit des promesses que j'avais reçues. Mais un temps arriva où, par un étrange retour du sort, Ed Morel, sa peine de cellule terminée, fut à la suite de sa conduite exemplaire nommé homme de confiance dans la prison. Je lui remis une autre lettre qui fut plus heureuse. Voici la réponse que je reçus et qu'Ed Morel me délivra en contrebande. Il est exact qu'il se trouve à notre muséum un aviron tel que vous le décrivez. Peu de personnes le connaissent car il n'est pas exposé dans les salles publiques. Moi-même, qui suis en fonction depuis 18 ans, j'ignorais son existence. Après avoir consulté nos anciens registres, j'ai trouvé mention du dit aviron qui nous avait été offert par un certain Daniel Foss, originaire de Elkton, État de Maryland. En l'an 1821. Ce ne fut qu'après de longues recherches que je réussis à retrouver cet objet dans un cabinet de débarras abandonné, situé sous les combles du muséum. Les entailles et les inscriptions sont gravées sur le bois, exactement telles que vous me les décrivez. J'ai retrouvé également dans nos archives une brochure qui nous avait été donnée par le même Daniel Foss et qui avait été écrite par lui et publiée à Boston par la librairie N. Coverley Fils en 1834. Cette brochure raconte 8 années de la vie d'un homme jeté sur une île déserte. Il apparaît évident que ce matelot, devenu vieux et pressé par le besoin, l'offrait à acheter dans la rue aux personnes charitables. Il m'intéresserait de savoir comment vous avez eu connaissance de cet aviron, dont tout le monde ignorait l'existence. Ai-je raison de supposer que la petite brochure publiée par ce Daniel Foss vous est un jour par hasard tombée entre les mains et que vous l'avez lue? Je serai heureux d'être à ce sujet renseigné par vous et je prends les dispositions nécessaires pour que l'aviron et la brochure soient à nouveau exposés. O.C.R. Salisbury.